Pas d'affolement. Nous voilà.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes en présence de toute la troupe de Pas d'enfermement, nous voilà, sur Radio Entre-deux-Mers, Sauveterre 98.4. Et notre invitée aujourd'hui est Isabelle Margot, responsable des Restos du Cœur de l'Aréole. Et je vous posais la première question, présentez-vous.
Ben vous avez dit mon nom, effectivement, bonjour. Je suis retraitée, j'habite près de l'Aréole. J'ai du temps de libre, j'ai de l'énergie, et donc j'ai conscience aussi que nous pouvons changer les choses. Donc, je consacre un peu de mon temps à aider les personnes du Réolais.
Et de quelle façon vous êtes devenue responsable des Restos du club ?
Alors, au départ, j'ai été un an bénévole à Langon, et il fallait monter un resto à l'Aréole, et comme je déménageais dans le coin, j'ai donc demandé de suivre une formation interne pour être responsable, ce que j'ai fait, c'était deux fois une semaine, et donc il m'a semblé, après je me suis formée sur le tas, et j'ai demandé conseil.
Combien avez-vous de bénévoles ?
35.
Beaucoup de plus d'hommes que de femmes ou à la parité ?
Peut-être, disons, deux tiers de femmes et un tiers d'hommes.
Quel pourcentage alors, de gens qui pourraient venir mais ne viennent pas quand même, parce que, bon, ils n'osent pas, disons.
Oh, disons 10-15% environ qui n'osent pas franchir notre porte, mais qui demandent souvent de l'aide à des amis, mais plutôt à la famille.
Bien. Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier des Restos du Cœur ?
Eh bien, ceux dont les revenus ne leur permettent pas de vivre décemment. Donc, nous avons un barème, mais nous n'avons pas le droit de le communiquer. Donc, ce sont des jeunes sans emploi, des personnes qui ont des emplois, mais à temps partiel, et puis aussi beaucoup de retraités qui sont seuls, qui sont locataires et à qui il reste très peu pour vivre.
Alors il y a des gens qui sont solidaires, mais est-ce qu'entre bénéficiaires, il y a une solidarité ?
Entre bénéficiaires, il y a des solidarités. Alors tout dépend des personnes, mais surtout des solidarités entre jeunes.
Entre jeunes, oui, qui est la nouvelle, je crois, oui. Beaucoup de jeunes. Et alors combien de repas distribuez-vous par jour ?
Alors,
la question avant de passer
alors c'est par semaine en fait.
Hein. Pas oui, par semaine.
Voilà, donc c'est le vendredi. Nous donnons, sauf pour les personnes seules, nous donnons pour préparer 9 repas pour la semaine. Mais les personnes qui sont en famille de 2 ou plus, c'est 6 repas par semaine. Alors un repas, c'est 100 grammes de protides, c'est-à-dire viande, poisson ou œufs, un accompagnement de légumes ou de féculents. En hiver, nous donnons des laitages et ensuite nous avons aussi un dessert qui peut être un gâteau, qui peut être des fruits.
Bien.
Et maintenant, j'annonce la maison des usagers.
Je suis avec Béatrice, qui s'occupe de la maison des usagers à l'hôpital de Cadillac. Pourquoi l'appelle-t-on la maison des usagers ?
C'est une maison qui a été faite pour les usagers, pour les patients. Elle leur appartient.
Comment fonctionne la maison des usagers ?
Les patients viennent... S'approprient le lieu, c'est comme à la maison, ils se font le café, ils font le ménage, c'est leur maison à eux.
Quelles sont les autres activités proposées par la maison des usagers ?
Nous avons des ordinateurs où ils peuvent faire des recherches pour avoir des emplois ou réactiver la NPE ou des recherches, quelles qu'elles soient, c'est ouvert. Nous avons des jeux de société, il y a beaucoup de dessins. Nous avons une personne qui vient faire des petits concerts de guitare électrique et d'autres propositions qu'on fera au fur et à mesure.
Et alors c'est un lieu d'accueil surtout ?
C'est un lieu d'accueil, de rencontre et d'humanité.
Qui peut venir à la maison des usagers ?
Tous les patients de l'hôpital, sortant et sortis, les soignants, tout le personnel de l'hôpital et les patients.
Alors, qui anime la maison des usagers ?
Alors, animer...
qui s'occupe ?
Coordonner, on va dire, voilà, c'est Colline et moi-même qui nous occupons d'accueillir les patients, d'être avec eux, d'écouter leur mal-être. C'est familial, c'est une maison de famille.
Je suis avec Béatrice.
De l'hôpital, sortant et sortie, les soignants, tout le personnel de l'hôpital et les patients.
Alors, qui anime la maison des usagers ?
Alors, animer...
qui s'occupe ?
Coordonner, on va dire, voilà, c'est Colline et moi-même qui nous occupons d'accueillir les patients, d'être avec eux, d'écouter leur mal-être. C'est familial, c'est une maison de famille.
Convivial.
Convivial, voilà.
Est-ce que c'est gratuit à la maison des usagers ?
Alors oui, pour l'instant c'est gratuit parce que bon, on commence juste. Après, on va voir comment ça va se passer. Mais vous avez un café de bienvenue. Il est évident que si une personne reste 3 heures de temps avec moi, elle aura un peu plus d'un café. Mais c'est autour de discussion. Ça apporte beaucoup de bien-être pour tout le monde.
Réconfort en même temps.
Réconfort aussi.
Depuis quand est-ce ouvert ?
C'est ouvert depuis fin janvier.
Est-ce que c'est beaucoup fréquenté ?
C'est très, très, très fréquenté, surtout que c'est ouvert qu'à mi-temps. Donc, le peu de temps des ouvertures, il y a énormément de fréquentation.
Et quels sont les projets pour l'amélioration de la maison des usagers ?
Alors les projets, ça va être aussi un lieu associatif où des associations vont venir parler de plein de choses suivant ce que les usagers veulent. Et le but c'est l'humanité.
Merci de votre disponibilité et de votre gentillesse, Béatrice. À la prochaine peut-être.
Merci à vous.
Merci.
Merci. Éric, vous venez souvent à la maison des usagers ?
Oui, bonjour, j'arrive de Toscaès. Depuis l'ouverture, effectivement, je viens boire un café de temps en temps, rencontrer les gens dans cet espace et puis parler également avec les ergots, les éducateurs et les ergots qui sont présents.
Que vous apporte la maison des usagers ?
C'est... un moyen de s'évader, on va dire. D'oublier un petit peu le contexte médical et trouver un accueil qui permette de vivre un peu mieux son hospitalisation.
Donc c'est une sorte de liberté.
C'est ça, une liberté.
Merci Eric.
Présentation Tex Arcan. 3 textes d'Arcan.
Si j'étais ailleurs, je sortirais de ma cage pour m'envoler, vagabonder, m'allier avec la faune, la flore, repère. Si j'étais ailleurs, je longerais une plage où l'océan caresserait mes pieds de ses vagues écumes d'or si clair. Si j'étais ailleurs, je chasserais toute la rage en moi brisée pour respirer parfait, pour être sans fin en dehors des hier. Où de funestes immondes voyages m'ont invalidé, où de sales gestes abondent, ravagent mon identité. L'ardeur. C'est ce feu dans mes yeux en parlant de ceux qui me sont chers, même si en enfer. C'est mon vœu d'être mieux, d'être parmi eux, loin de l'envers, qui nous éguerre. C'est ce nœud en moi vieux, dévorant tout preux un manque d'air dans la misère. C'est l'aveu vers les cieux, fait, refait si peu, lorsque me perds, je j'y atterre. L'ardeur est bulldozer, dans tous les cœurs. L'ardeur et vive humeur, elle foudroie à soi bien des heures, sans pudeur. Les jardins de l'œil. Sur les berges de la Garonne, un petit carré de terre s'ennuyait. Il rêvait d'être un potager où la bonne humeur serait partagée. Un jour, passa un homme plein de projets qui fit des sillons bien alignés avec quelques coups de bêche bien placés. Le petit carré de terre étonné, pendant un long moment contemplait cet homme qui aimait tant le travailler. Puis, vit d'autres passionnés le cultiver comme il l'avait imaginé. Dès lors, plus jamais, jamais il ne s'ennuyait. C'est ainsi que les jardins de l'œil sont nés. Aussi, quand vous serez là tout près, sur ce côté de berge de Garonne, n'oubliez pas de le visiter. Avec les jardiniers, allez discuter. Sur votre plaisir, on sera décuplé.
Merci Arca pour ces textes. Et maintenant, nous allons écouter Julio Iglesias, Vous les femmes.
Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis son éclat. On le fout des jalousies et ça vous flatte. Vous les femmes, le charme, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable.
Nous revenons dans nos studios avec Elisabeth Marcot, responsable des Restos du Cœur de l'Aréole. Justement, Nathalie, vous avez une question à poser à Elisabeth.
Combien de repas y a-t-il plus de bénéficiaires en ville qu'à la campagne ?
Oui, bien sûr, beaucoup plus en ville. Alors, tout dépend de quelle ville on parle, mais en général, oui, il y a un afflux important en ville.
Et ça se comprend, mais l'aréole c'est spécifique, je crois que c'est un relais, c'est pas tout à fait un lieu, un point, c'est un relais.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire par relais, mais nous sommes en zone rurale, en fait.
Oui, ça. Hein.
Donc, c'est vrai que, disons, 60% de nos bénéficiaires viennent de la ville même de La Réole. Et après, les 40% sont autour. Mais beaucoup de personnes viennent habiter à La Réole parce que c'est pas cher. Beaucoup au niveau logement. Et beaucoup n'ont aucun moyen de locomotion. Donc pour eux, ils sont quand même près des magasins, des infrastructures.
Merci.
Combien de repas distribuez-vous par jeudi ?
Alors, d'abord, ce sont les vendredis déjà. Ah. Alors justement, en gros, 2500 repas en hiver, parce que nous avons 400 personnes de 180 familles environ. Et en été, nous en avons un peu moins, parce que nous avons 100 familles et nous avons environ 1500 repas par vendredi.
Vous êtes optimiste pour l'avenir, parce que c'est une question qu'on peut se poser sur l'avenir des Restos du Cœur.
Alors tout d'abord, ce n'est pas d'optimisme, mais c'est de pessimisme.
Oui, ah, oui c'est pessimisme, mais un moindre pessimisme peut-être.
Voilà, si nous voyons grandir nos nombres de bénéficiaires.
Hein, année par année.
Année par année.
Quelle différence y a-t-il entre l'hiver et l'été ?
Alors l'hiver, c'est de décembre en mars, car nous estimons que les personnes souffrent d'autant qu'il faut se chauffer. Donc notre barème est beaucoup plus élevé pour accueillir les personnes. Et à partir du mois de mars, eh bien, nous diminuons le barème. Plutôt, oui, nous augmentons le barème, voilà. De telle façon que nous prenons 30% de personnes en moins.
Ah oui, l'été, il y en a 30% en moins. Mm. Et parce qu'on peut se prendre des fruits et légumes plus facilement, peut-être, dehors.
Oui, et puis il y a certains métiers
Oui, on peut être embauché dans l'été.
Oui. Voilà.
Eh bien, moi, je vais vous changer tout au tout. Parce que j'ai mon texte anniversaire que je n'ai pas lu le mois dernier. Et moi, j'ai été un peu déçu, enfin un peu sur mon... Pas déçu, non, mais j'ai envie de le lire parce que j'en ai besoin. Et vous aussi, je pense. Il ne faut jamais regretter de faire quelque chose. Cette maxime nous va à ravir, nous les bénévoles, soignants-soignés, qui œuvrons depuis 3 ans pour l'émission Pas la forme, nous voilà. Nous avons, comme tout le monde, appris à marcher. Nous avons d'abord balbutié, puis, confiance venue, nous avons progressé. L'émission démarre seulement maintenant. Nous commençons à être aguerris. Un sourire complice de Francis, un ordre de l'exigeant Guillaume, et nous voilà partis pour un reportage. Tout est et restera abordé, sauf peut-être la politique, source de tension pour beaucoup de monde. C'est pour cela que, unis, nous entamons notre 4e saison, la fleur au fusil. Ce texte de qualité ne pourrait avoir raison d'être sans la morale que je vous dévoile. Qui tente rien n'a rien, et qui s'engage finit toujours à avoir raison, sur le fond et à la fin. C'est un texte que je tenais à lire parce que c'était l'anniversaire le mois dernier.
Merci.
Voilà. Merci Philippe. Maintenant, nous allons vous écouter avec Sylviane sur un texte, c'est une interview plutôt, du GEM.
Allons-y.
Qu'est-ce qu'apporte le GEM aux adhérents ?
Eh bien, ça apporte, en fait, les personnes sont... souffre surtout de solitude. Et le fait de venir au GEM, évidemment, ça casse cette solitude-là. Et on fait plein de choses. En fait, on peut faire des jeux de société, on peut tout simplement discuter entre nous. Et ça nous arrive aussi de faire des sorties. Des sorties dans la région, ou en France, ou même à l'étranger.
Que vous apportent les ateliers au ciel ouvert ?
Les ateliers à ciel ouvert, eh bien, c'est un grand projet d'un film participatif et c'est très intéressant parce que ça nous permet à nous, adhérents du GEM aussi, à pouvoir y participer et participer avec d'autres associations ou autres. Ça, c'est intéressant, très intéressant. Au point de vue humain, c'est très bien.
Avez-vous déjà fait du cinéma avec le GEM?
Moi, personnellement, non. Donc, pour moi, c'est nouveau.
Mais le GEM.
Mais le GEM, il y a eu quelques années, oui, une personne dont je ne me souviens plus du nom, pardon, je m'excuse, mais qui a fait un film, un reportage sur le GEM, effectivement.
Y a-t-il beaucoup de participants ?
Alors, des participants, ça bouge beaucoup, mais en moyenne, 4 à 5 personnes. Adhérents, je veux dire, adhérents au GEM.
Et ça va, ça vient, c'est l'ouvert, ça, c'est pas stable.
Non, on vient quand on veut, si on a envie, voilà, puis on fait divers ateliers.
Ben merci Corinne.
De rien.
Et pour vous Marina, qu'est-ce que c'est le GEM ?
Bon, le GEM, c'est une association, bon, de mon âme, oui, c'est une association où les gens qui sont isolés, ont les possibilités de rencontrer les autres et de faire des activités et de passer des temps ensemble, de discuter avec les autres. Et on fait aussi beaucoup d'activités intéressantes.
Et de l'entraide. De l'entraide entre vous.
De l'entraide entre...
De l'entraide, de la solidarité.
Oui, oui.
Merci Marina.
Nous venons dans nos studios et avec Elisabeth, alors qu'est-ce que vous pensez de ce petit reportage sur de l'entraide en psychiatrie qui est un peu comme vous, enfin pas tout à fait, mais c'est surtout la solitude là qui règne, enfin qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais je crois que c'est l'air d'être très utile et je voulais d'abord demander que veut dire le sigle GEM ?
Ben c'est
groupe d'entraide mutuelle.
Voilà. D'accord.
Voilà, c'est du... Ouais, c'est l'entraide psychiatrique. Alors surtout là, ils ne donnent pas trop à manger, non même pas, mais c'est l'entraide au niveau de la solitude.
Oui, c'est de l'aide à la personne. C'est très
personne.
Important.
C'est aussi important. Enfin, c'est important.
Ah, c'est très important, effectivement. Et ils ont des réunions toutes les semaines.
Si, Valérie.
Tous les mois, il y a une réunion des adhérents, des usagers. Et il y a une présidente, il y a un trésorier, comme dans beaucoup d'associations.
Voilà, c'est un peu cousin germain avec ce que vous faites, puis voilà. C'est...
Enfin, nous faisons
ils, font beaucoup, ils font beaucoup de travail à l'accompagnement de la personne, par exemple pour faire la cuisine, ou des repas pas trop chers, des sorties, des vacances, même à l'étranger.
Alors nous aussi, nous proposons de l'aide à la personne, et nous avons fait il y a 5 ans des ateliers cuisine. Effectivement, c'est intéressant. Mais on fait aussi de l'aide au départ en vacances également.
Ah oui. Eh bien, Nathalie, qui est toujours dans les studios, nous a concocté un texte à sa manière. Allez-y, Nathalie, sur le printemps.
Le printemps. Comme le dit si bien le poète Théophile Gautier, tandis qu'un sort perverse ne nous couvre pas le temps, Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps. La primevère ouvre le bal. Elle signifie messagère d'espérance dans la langue des fleurs. Le ciel retentit du vol des oiseaux migrateurs. Au parc ornithologique du Teche, ils sont attendus. Ils arrivent enfin. L'appareil photo, des jumelles, nous voilà équipés pour. Dans les massifs, les fleurs explosent tel un feu d'artifice. Dame nature est en reconnaissance. Fermez les yeux de joie.
Merci beaucoup Nathalie. Ce très joli texte est rafraîchissant. Maintenant, je vous propose de « Je vole » de Sardou, par Jean-Louis. C'est une demande de Jean-Louis.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. C'est jeudi, il est 5h05. J'ai bouclé une petite valise et je traverse doucement l'appartement endormi. J'ouvre la porte d'entrée en retenant mon souffle et je marche sur la pointe des pieds comme les soirs où je rentrais après minuit pour ne pas qu'il se réveille. Hier soir à table,
J'ai bien cru que ma mère se doutait de quelque chose. Elle m'a demandé si j'étais malade et pourquoi j'étais si pâle. J'ai dit que j'étais très bien, tout à fait clair. Je pense qu'elle a fait semblant de me croire et mon père a souri. En passant à côté de sa voiture, j'ai ressenti comme un drôle de coup. Je pensais que ce serait plus dur et plus grisant, un peu comme une aventure, en moins déchirant. Oh, surtout ne pas se retourner. S'éloigner un peu plus. Il y a la gare, et après la gare, il y a l'Atlantique. Et après l'Atlantique. C'est bizarre, cette espèce de cage qui me bloque la poitrine. Ça m'empêche presque de respirer. Je me demande si tout à l'heure, mes parents se douteront que je suis en train de pleurer. Or, surtout ne pas se retourner, ni des yeux, ni de la tête. Ne pas regarder derrière. Seulement voir ce que je me suis promis, et pourquoi, et où, et comment. Il est 7h05. Je me suis rendormi dans ce train qui s'éloigne un peu plus. Oh, surtout ne plus se retourner. Jamais. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole.
Et oui, c'est dans la période du mois de mars. Le mois de mars, c'est les carnavals. Et justement, Sylviane va nous proposer un texte sur les carnavals.
Les Grands de Douarnenez est le carnaval qui se déroule à Douarnenez, à la pointe du Finistère, et communément appelé les Grands de Douane, ou plus simplement les Grands par les habitués pendant 5 jours durant la mi-février. C'est une succession de baies et de défilés carnavalesques. Origine. Les origines du carnaval remontent à 1835, à partir du milieu du VIe siècle. La prospérité engendrée par la pêche à la sardine a attiré une population de l'extérieur qui a très vite rendu à la ville surpeuplée et défavorisé les activités des rues. Les bateaux hivernent après la saison des sardines, attendaient la fin des grands pour reprendre la mer. Ce sont les marins pêcheurs qui font les vitalités et l'intensité de la fête parce que c'est la corporation la plus représentée à Douarnenez et que le carnaval tombe en période de faible activité de pêche. De cette conjonction, une convivialité est née associée à un sentiment fort d'appartenance à une communauté douarneniste, doublée d'un solide sens de la fête. Programme des festivités. Les grains de douane sont particulièrement connus à travers la Bretagne pour le premier soir où est intronisé le roi du carnaval nommé le Den Paoling. Pauvre bonhomme. En français, cette mascotte est brûlée le dernier jour et laisse place à un rendez-vous de deux personnes costumées. Son thème défini sur le vieux port l'intronisation de Dean Pauling. Le samedi ouvre les hostilités des grands pour une fête où dure 5 jours. Elle est suivie des noces des grands et du grand défilé. Le dimanche de baie, costumé pour les petits et grands, etc. Enfin, pour finir, l'incinération de la mascotte sonne la fin des grands le mercredi accompagné d'un magnifique feu d'artifice au port de Rosmer. Merci.
Merci Sylviane, ce très beau texte. Alors justement, on va, à propos de texte, ouvrir la page sport, mais c'est un texte que va lire en direct Jean-Louis, un texte sur l'histoire de la moto. J'ai passé la parole au brillant Jean-Louis.
Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'invention de la moto et de son histoire. La moto a été inventée par un Français, Louis-Guillaume Perrault. Il a déposé le brevet en 1868. Il a continué à améliorer son invention jusqu'en 1885. Et elle était équipée d'un moteur à vapeur entraînant la roue arrière et des pédales agissant sur la roue avant. Mais il n'a jamais roulé de façon autonome. Il était fixé à un axe vertical et tourné en rond. Les Américains s'attribuent aussi la paternité. En effet, il y avait une moto dans les attractions foraines aux États-Unis en 1869. En 1885, un ingénieur français invente une moto pour tester un moteur à pétrole. Celui-ci, équipé de deux roues stabilisatrices latérales, est considéré comme la première moto dotée d'un moteur combustion interne. En 1885, un Français commence à fabriquer des motos pour les commercialiser. Elles sont équipées d'un moteur à pétrole de 5 cylindres en étoile placé dans la roue arrière. En 1894, un Autrichien commercialise les motos avec le premier véritable réseau de vente et d'histoire de la moto. En 1897, deux frères, Eugène et Michel, commencent à commercialiser les motocyclettes dont le moteur est placé au-dessus de la roue avant. Il y a plusieurs versions avec le moteur placé à plusieurs endroits et des motos à chenilles. En 1950, la moto est équipée de carénage. Après la guerre et l'arrivée des voitures, ce qui a diminué la production française, mais les Japonais se sont mis à construire des motos, ce qui a permis une renaissance. Dans le sport moto, c'est adapté au sport mécanique, le motocross, le trial, et à différentes courses d'endurance et de vitesse. Tout cela est régi par la FFM, Fédération Française de Moto.
Merci Jean-Louis de ce brillant plaidoyer pour la moto. Et on va annoncer autre chose du rugby avec Ossine et les résultats du top 14.
Bonjour, je vais donner les résultats du rugby des top 14. La dernière journée. Brive-Bagen, 15 à 12. La Rochelle bat Bègle, 31 à 20. Montpellier bat Castres, 47 à 7. pour Bayonnax, 33-12. Stade français a perdu contre Toulouse, 33-37. Lyon a perdu contre Racing, 22-24. Toulon bat Clermont, 49-0. Voilà pour le résultat. Je vous donne le classement. Premier Montpellier, deuxième Racing, troisième Toulouse, quatrième Toulon, cinquième La Rochelle, sixième Pau, septième Lyon, huitième Castres, neuvième Clermont, dixième Bordeaux-Bègles, onzième Agen, douzième Stade français, treizième Brive, quatorzième Ionax.
Et maintenant, les infos et la page culturelle.
Oui, on a eu un petit blanc. Et c'est la page sport qui continue avec les Jeux Olympiques. Vous êtes habitués tous les mois aux Jeux Olympiques et je ne veux pas vous laisser sur votre faim. Les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 ont lieu sur le sol américain. Les USA ont organisé 2 ans plus tôt la Coupe du Monde de football. Un premier fait marquant est le porteur de la flamme olympique qui n'est autre que Cassius Clay qui enflamme la vasque olympique. C'est les Jeux des Français qui termineront 5e au classement des médailles. Jacques Chirac a mis la carotte en récompensant grassement les champions olympiques. Côté étranger, ils sont éliminés par un exploit fantastique de Michael Jackson qui pulvérise le record du monde du 200 mètres en 19 secondes 32 centièmes. Mais revenons à nos tricolores. Marie-Jo Pérec fait le doublé 200 mètres et 400 mètres et prouve qu'à 28 ans, elle est une valeur sûre de l'athlétisme française, au même titre que Jean Galfione, qui gagne la perche dans la tradition de l'école française. L'inusable Gianni Longo, à 38 ans, gagne l'épreuve sur route, prouvant qu'elle est bien la meilleure cycliste de tous les temps. En escrime, Laura Flessel gagne l'épée et justifie son surnom de la guêpe. Mais c'est en judo que les Français triomphent, avec bien sûr David Douillet chez les lourds, mais aussi Marie-Claire Restoux et Jamel Bourras. Ces Jeux, après ceux de Barcelone, prouvent que l'amateurisme est bien loin. Et les dollars ne sont plus cachés et deviennent même honorifiques. Et voilà.
Merci Philippe pour cet élan de sportif.
De rien, c'est au micro. Hein.
Non, je suis sûr que dans la vie, c'est pareil.
Un peu.
Avant de revenir à Elisabeth, je voudrais juste lire un texte de Claude Barzotti qui se nomme « Je te hais ». Je te hais, je te hais, je te hais. Pour tes regards jetés autre part, pour ces fleurs qui n'étaient pas de moi, pour tes voyages au bout de nulle part, je te hais. Et le temps a passé, j'ai pris des sombres routes, des chemins égarés, pour effacer mes doutes sur d'autres oreillers. Et le temps m'a changé, j'en ai froissé les draps, sur les ombres allongées, à dire des mots tout bas, sans jamais les penser. J'en ai fait des détours pour oublier ta voix, le parfum de tes lèvres. Le temps m'a changé. Interminable hiver, sans jamais avoir l'été, loin de ton pull au vert, dans tes bras enlacés. Et le temps a passé, j'ai pris quelques printemps, les automnes ont duré, moins que les sentiments, quand je vis au passé. J'en ai fait des détours pour oublier ta voix, le parfum de tes lèvres et de ton corps sur moi. Je te hais, je te hais, je te hais, parce que sans toi, je ne peux plus m'endormir, parce que je ne peux plus me passer de toi. Sans toi, je suis triste à mourir. Je te hais, je te hais, je te hais, parce que sans toi, je ne peux plus m'endormir, parce que je ne peux plus me passer de toi. Sans toi, je suis triste à mourir. Je te hais, je te hais, je te hais. Pour tes regards jetés d'autre part, pour ces fleurs qui n'étaient pas de moi, pour tes voyages au bout de nulle part, je te hais. Et le temps m'a changé, dans ces nuits infinies, je n'ai plus jamais aimé. Dans leurs yeux, j'ai compris que tu as toujours été la seule femme de ma vie. Voilà. Par contre, j'aurais une question avant de laisser la parole à nouveau à Philippe. Elisabeth, je peux vous appeler Elisabeth?
Bien sûr.
Je voudrais savoir... comment sait-on qu'on peut être une personne qui a besoin des Restos du Cœur ou qui a envie de s'investir
bénévolement.
Bénévolement. Dans les deux cas, comment le sait-on?
Alors, la première question, c'est comment sait-on
qu'on peut bénéficier du reste.
On peut bénéficier, ben, c'est que, disons, on a du mal à joindre les deux bouts, on a des dettes, et puis on sent que si on a des enfants, par exemple, qu'on ne peut pas leur offrir tout ce dont ils auraient besoin. On ne peut pas payer la cantine, par exemple, quelque chose de tout simple. Ils veulent faire du sport, ben, c'est payant, ben, on ne peut pas, etc.
Oui, parce que je me dis, on ne le sait pas comme ça, hein, parce que on est un peu gêné aussi.
Bien sûr, on est beaucoup de personnes, lorsqu'ils franchissent notre porte, souvent sous la pression de voisins ou de banquiers, etc.
Oui, c'est ce que je me demandais.
Eh bien, ils éprouvent une honte et même des fois ils pleurent. Ils n'osent pas, hein, de venir. Mais ils ont tellement de difficultés financières qu'ils ne peuvent plus. Nous avons des personnes qui viennent et qui n'ont pas mangé depuis 8 jours. On a une personne 14 jours. Donc, ils perdent beaucoup de kilos.
Ça se voit un peu, quand même.
Ça se voit. Ils sont fatigués. Souvent, des fois, ben, il faut manger les enfants, mais pas les adultes. À un moment donné, il faut faire quelque chose.
C'est une alerte de l'entourage qui vous contacte.
De l'entourage ou même des assistantes sociales qui nous téléphonent. Ben, bien sûr, parce qu'ils sont suivis. Et des fois, ben, c'est les médecins qui leur conseillent ou qui nous appellent. Et des fois, les employés de banque aussi nous disent une telle personne a besoin d'aide alimentaire.
Donc, il y a une solidarité avec vous.
Une solidarité, mais c'est à eux de venir. On ne peut pas aller à leur place. Donc, c'est vrai qu'il y a cette démarche à faire qui n'est pas facile.
Je vous remercie. Et pour bénévole ?
Alors, pour être bénévole, en fait, ce n'est pas facile, parce que le bénévolat, ce n'est pas rémunéré, déjà. Il faut donner de son temps, de ses capacités, et même, disons, que cela coûte, parce que vous prenez votre voiture, ne serait-ce que pour venir au centre. Donc, il y a aussi des frais, quoi. Et ensuite, il faut aimer la relation humaine. Si on a du mal à communiquer avec les autres, il faudra déjà s'entendre avec les autres bénévoles. Là, nous sommes 35, donc il faut déjà incorporer une équipe où il y a une certaine hiérarchie. Ce n'est pas la hiérarchie du travail, pas du tout professionnelle, mais il faut quand même des personnes qui dirigent les autres, et c'est normal. Et ensuite, il faut s'entendre avec les bénéficiaires qui sont des jeunes, des moins jeunes, on a un petit pourcentage d'étrangers aussi. Donc, des personnes souvent qui ont des nerfs à vif, qui ont des problèmes personnels. Donc il faut quand même ces qualités-là. Il faut des qualités humaines.
Et de la psychologie, peut-être aussi un peu.
Et psychologique aussi, oui. Il faut être solide. Hein, voilà. Puis il faut aimer la vie, je crois.
Oui, plus que les autres, peut-être.
Je vous remercie.
Une qui aime bien la vie aussi, c'est Corinne, qui va nous parler des actualités culturelles.
Et maintenant, les infos et la page culturelle. À la Maison Labatte, à Villandreau, le samedi 31 mars, de 10h à 13h, l'atelier Land Art. Renseignements au 06 79 56 36 27. Au château de Villandreau, le lundi 2 avril à partir de 14h, c'est Pâques avec l'association Adichat. Au Carme, à Langon, le mardi 3 avril à 20h30, une conférence de printemps intitulée « L'autisme, comment le vivre ?» 10e saison avec l'association L'eau camine. Le vendredi 6 avril à 20h30, un spectacle humoristique intitulé « Secours qui parle » avec Yves Marc. Le mercredi 18 avril à 10h30, un spectacle électro-pomme avec Lady Do et Monsieur Papa. Le samedi 21 avril, le printemps des artistes. Et le vendredi 27 avril à 20h30, un spectacle intitulé Le bout du fil n'existe pas avec la compagnie Au fil du temps. À La Forge à Portes, le vendredi 20 avril à 20h30, un spectacle intitulé Le carton avec le théâtre des Salinières. Et le samedi 21 avril à 20h, un spectacle avec humour et chansons françaises intitulé Aïe 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 aïe, concert de filles, avec la compagnie Betty Blues. Au Cinélux, du centre hospitalier à Cadillac. Le mardi 3 avril à 14h30, un film de Hayao Miyazaki intitulé Le château ambulant. À la clinique des gravières à Lormont, le vendredi 6 avril dès 15h, dans le cadre des cafés rencontres, une exposition de photos intitulée Le carnaval des animaux de Marie-France Tessier. Et salle Bonnard à Sauveterre de Guyenne, le samedi 21 avril à 20h30, radio Entre deux mers et le théâtre des Salinières présentent Le sexe de l'escargot, cadeau télé shopping TF1 à la bourriche. Et à présent, la programmation du Cinélux à Cadillac. Du 29 mars au 17 avril, les films à l'affiche sont Ni juge ni soumise, Tout le monde debout, Black Panther, La forme de l'eau, La finale, Razia, Lady Bird, Cro-Blanc, Les bonnes manières et Ready Player One. Les séances spéciales Zéro Phyto 100% bio en présence du réalisateur le jeudi 29 mars à 20h15. La forme de l'eau, soirée caméo le vendredi 30 mars à 20h30. L'amour et la révolution en présence du réalisateur le dimanche 1er avril à 15h. Pierre Lapin, avant-première le lundi 2 avril à 15h. Les Trois Mousquetaires, film et visite au château le mercredi 11 avril à 14h. La Révolte des Jouets, ciné-goûté le vendredi 13 avril à 10h30. Et le Round-up, face à ses juges, séance débat le vendredi 13 avril à 20h30. Merci et à bientôt.
Et maintenant, on revient vers Elisabeth pour lui poser quelques questions. Quelles sont les autres choses non alimentaires que l'on donne?
Alors, ben nous faisons surtout de l'aide à la personne, c'est-à-dire aide à la recherche d'emploi. Nous avons deux personnes qui affichent les offres d'emploi de la région et peuvent mettre en relation donc les demandeurs d'emploi avec les employeurs. Nous avons un accès à l'aide juridique et à la justice chaque mois. Donc une juriste qui vient faire des permanences. Nous avons aussi, sous certaines conditions, la proposition de microcrédit pour l'achat, de voitures, d'appareils ménagers, etc. Nous aidons à partir en vacances pour certaines familles, moyennant une participation très modeste. Nous aidons aussi pour les personnes qui font des démarches administratives, donc des personnes qui peuvent aider dans le courrier. Également, nous avons un vestiaire gratuit avec le linge de maison. Nous proposons, nous en avons donc les dons, des meubles, des appareils ménagers. Nous avons aussi toute une aide aux bébés, parce que pour nous, un bébé, c'est jusqu'à 12 mois. Après, il devient adulte, car il mange comme des adultes, et également en produits de puériculture également. Voilà. Ce que nous ne faisons pas, mais qui se fait dans d'autres centres parce que nous n'avons pas les conditions nécessaires d'accueil, nous ne faisons pas de soutien scolaire alors que d'autres centres le font. L'apprentissage des langues étrangères, je le fais moi et avec une équipe sous l'égide de l'UNESCO. Pareil, c'est un problème de local. Nous ne faisons plus d'ateliers cuisine parce qu'il faut aussi des compétences, on peut en avoir, mais c'est surtout des locaux qui soient aux normes.
Ah oui, il faut les normes.
C'est très important. Beaucoup d'autres centres font des ateliers informatiques. Pareil, il faut la place. Et nous, nous avons un centre qui n'est pas chauffé. C'est-à-dire, en hiver, il fait 2 degrés de moins que dehors. C'est-à-dire, s'il fait moins 3, il fait moins 1 dans notre local. Là aussi, pour être bénéficiaire dans notre centre, il faut être en bonne santé physique aussi. Voilà.
Et voilà. Les produits d'hygiène, vous en avez, les produits d'hygiène?
Oui, nous en avons. Mais ils coûtent cher, hein, les produits d'hygiène. Donc on en donne 2 fois en hiver et puis 3 fois en été. Parce qu'il faut toujours, quand nous distribuons un produit, qu'il y en ait pour chaque famille. Et donc, oui. Si nous avons 180 familles, il faut 180.
Divisé par 180.
Non, voilà, multiplié par 180.
Oui, multiplié.
Voilà. Et puis pareil pour l'été. Voilà.
Oui.
Quelles sont les personnes qui vous donnent les aliments?
Ah, ça c'est très intéressant. Alors, bon, tout d'abord, nous sommes livrés par Bruges. Bruges, c'est notre antenne départementale. Notre antenne départementale est livrée par le national. Alors en fait, si on prend au national, qui donne au national, eh bien, ben, il faut de l'argent pour acheter. Donc ce sont les dons en numéraire de tous les Français, non Français d'ailleurs. Ce sont les subventions des collectivités locales, le concert des enfoirés, qui rapporte énormément, et également la communauté européenne qui donne. Après, avec l'argent qui reste, nous achetons des produits qui sont ensuite distribués à chaque centre. Mais nous avons nos propres ramasses, c'est-à-dire qui nous donne, ben, les magasins du Réolais, Intermarché, Lidl, Netto, qui nous donnent des produits qui vont bientôt arriver à date limite de consommation, les boulangers, et des boulangers depuis Saint-Mexant jusqu'à la Réole, les producteurs de fruits et légumes, et particulièrement les bio, qui font très attention à ne pas jeter les fruits et légumes, et qui nous donnent, dont Marie de Castillon, elle se reconnaîtra, voilà. Et puis nous avons aussi, comme nous sommes en fin de semaine, l'abattoir de volailles de LDC à Bazas, qui nous donne les volailles qui n'ont pas été vendues.
Merci.
Quelle est l'évolution de la population Quelle est l'évolution de la population des bénéficiaires?
Oh là là, alors nous voyons une diminution régulière et rapide du pouvoir d'achat, puisque nous avons ouvert sur le Réolais en 2005, c'est-à-dire ça fait 13 ans. Nous voyons que les voitures qu'ils avaient, certes à crédit, mais en bon état, maintenant c'est vraiment des voitures que souvent il faut aider à démarrer, à pousser. Nous voyons une dégradation du pouvoir d'achat très, très, très nette.
Eh bien, merci, Elisabeth, de votre humanisme et de votre gentillesse. Et nous allons nous quitter pour une nouvelle émission dans un mois, le jeudi, de 14h à 15h. Écoutez-nous nombreux, parce qu'on a une petite émission qui monte et qui monte, qui monte. Et vous pouvez nous écouter, en tout cas, sur Postcast Internet. 88.4, le jeudi, de 14h à 15h. Bienvenue à tous ceux qui sont venus, les bénévoles, les Francis qui sourit, et bien sûr Elisabeth qui a été très 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 bien, comme je le pensais. Et puis tout le monde, Cédric, etc. Mais j'en oublie des meilleurs.
Ça a été un très grand plaisir pour moi.
Merci.
Merci.
Au mois prochain.
Merci.
Pas d'affolement. Nous voilà.